Eh bien, on va continuer à parler de santé, mais on va parler de chemsex. Mais on ne va pas en parler en termes de soins de santé, mais plutôt en termes artistiques. Parce que la prochaine entrevue, ben, c'est au sujet d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Ses regards amoureux de garçons altérés ». Au bout de 20 heures passées dans la chambre 158 d'un sauna de Montréal, un jeune homme se réveille désorienté, vidé, brisé. Que s'est-il passé? Dans ce minuscule lieu transformé en théâtre de confession, il remonte le fil des dernières années, des dernières heures. Donc, c'est le point de départ de cette pièce, ses regards amoureux de garçons altérés, une pièce dont la toile de fond est l'utilisation du cristal meth dans le cadre d'activités sexuelles. On reçoit donc l'auteur de la pièce, Éric Noël. Bienvenue à l'émission, Eric.
Salut, Denis Martin.
Alors, je pose la même question. C'est la première fois que tu viens ici. On
Oui.
utilise quel pronom et quel accord avec toi?
Il ou elle, avec les accords que tu veux.
Parfait. Alors, je voulais quand même te présenter. Tu es acteur et traducteur. Tu as remporté le prix Gratien Gélinas en 2010 pour la pièce Faire des enfants, créée au 4 sous l'année suivante. Ses regards amoureux de garçons altérés, récipiendaire en 2016 de l'aide. À la création du Centre national de théâtre de Paris. Wow! Puis tu as aussi fait la mise en scène de L'amour looks something like you, que j'ai adoré, en fait. Moi, j'ai vu la représentation où tu jouais, mais il
Oui,
y avait
oui.
plusieurs personnes qui l'ont interprété à chaque soir différent.
Ouais, on faisait 12 soirs en fait. Puis moi, je faisais la première et la dernière. Mais entre ça, il y avait 10 artistes queer.
Zénia, entre autres.
Voilà, plein plein d'âges et d'orientations, de backgrounds différents là, qui étaient là pendant les 10 autres
J'aurais
soirs.
aimé avoir le temps de voir les autres artistes aussi. Donc, tu parles d'une pièce qui aborde cette fois-ci un phénomène que certains qualifient de fléau. C'est quoi le chemsex, en fait? Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ça?
Ben, d'abord, c'est mon histoire personnelle. Donc, c'est une pièce que j'ai écrite déjà, en fait, il y a 10 ans. C'est sa création, mais ça a pris. Voilà, il y a eu un parcours assez long avant la création. Mais moi, je l'ai écrite déjà il y a 10 ans, alors que je consommais moi-même puis que je faisais du chemsex à l'époque. Et donc, c'est d'abord ça qui a motivé. J'avais besoin, je pense, d'exprimer. À l'époque, je menais vraiment une double vie, c'est-à-dire que c'était vraiment caché de mes proches, de mes amis, du milieu professionnel. Puis c'est comme si l'écriture de cette pièce-là a un peu été une manière pour moi, ça a comme été la première façon d'en parler, en fait. Fait que c'était vraiment ça le premier déclencheur, je dirais, de l'écriture. Puis après, ben, aujourd'hui, 10 ans plus tard, c'est vrai que là, il y a une envie de parler à ma communauté aussi, donc de pas juste
Et
pour moi, là.
juste pour dire, depuis ce temps-là aussi, tu as. J'aime pas toujours parler de consommation de drogue comme étant problématique parce qu'elle n'est pas toujours problématique, mais dans ton cas, elle était problématique.
Oui.
Alors,
Oui, dans mon cas,
donc,
elle
tu as
l'était.
réussi
Oui,
à
oui.
sortir de ça.
Oui. Moi, elle était problématique, puis elle était devenue vraiment handicapante là, dans ma vie.
Qu'est-ce
Donc,
qui a causé ça?
ben, en fait, tu sais, un peu comme on l'a nommé tantôt, tu sais, il y a plein de types de consommation. Il y a des gens qui ont une consommation qui est récréative. Moi, elle n'a pas été très longtemps. En tout cas, quand je suis tombé dans le cristal meth, elle n'a pas été récréative très longtemps. Puis c'est ce qu'on voit souvent, là, parce que le cristal meth, évidemment, c'est une drogue très puissante, terriblement addictive. Donc moi, c'est devenu une dépendance, là. Donc c'est-à-dire que je contrôlais plus ma consommation, c'est plus moi qui décidais. Puis c'est ça qu'on remarque avec le cristal, là. C'est rarement nous qui décidons quand on commence, quand on arrête, là. Fait que moi, c'était vraiment ça. Donc c'était devenu, évidemment, ça affectait ma vie sociale, ma vie professionnelle. C'est une drogue qui fait qu'on reste éveillé pendant des jours, très difficile d'aller au travail, d'avoir des projets, de les mener à terme. Donc moi, c'est lentement, la vie de couple, n'importe quoi. Il n'y a rien qui était possible, en fait, avec cette consommation-là. Puis donc, ça m'a mené à un moment donné, faire des démarches pour arrêter. Puis moi, je fais partie de ceux que moi, ça a été l'abstinence, là, qui a été pour moi la solution. Parce que voilà, j'arrivais pas. J'ai essayé autrement, mais ça marchait pas pour moi, oui.
Wow,
Oui.
Gengis qui intervient.
C'est tellement généreux de témoignage. C'est vraiment très généreux de ta part. Y es-tu arrivé un moment dans cette consommation-là où est-ce que tu as manqué mourir?
Oh mon Dieu. C'est toujours une question, tu sais. C'est-à-dire que je le saurais, je le sais pas. C'est-à-dire que je pense que les gens qui meurent, mettons, en contexte de consommation, savaient pas qu'ils étaient peut-être sur le bord de mourir. Je pense qu'on ne sait pas à quel point on passe proche. Mais tu sais, est-ce que j'ai. Tu sais, des moments où j'ai wipé tout seul dans une chambre de sauna pour me réveiller des heures plus tard, ben oui, c'est arrivé. Fait que.
Ou te réveiller à l'hôpital.
Ouais, ben moi, j'ai pas eu. Je suis pas passé par l'hôpital.
OK,
Je suis
OK.
pas arrivé. Mais c'est arrivé à la majeure. Comme les gars que je connais, mettons, qui se rétablissent dans un. Mettons, qui sont dans l'abstinence maintenant, je dirais que la majorité, il y a une partie qui a un séjour à l'hôpital. Moi, c'est pas arrivé, mais tu sais, il y a eu vraiment des moments où. Tout seul chez moi, tu sais, entendre des voix, avoir l'impression vraiment que la santé mentale est en train, tu sais, quand ça fait 4 jours, 4-5 jours que t'as pas dormi, c'est sûr qu'à un moment donné, tu te mets en grand danger là, de ta santé. On met nos corps à épreuve. Puis souvent, ce qu'on voit avec le chemsex puis avec le cristal en particulier, c'est que les gens vont pas nécessairement mourir d'une overdose de cristal. C'est qu'ils vont mourir souvent s'il y a des conditions de santé à côté, comme par exemple quelqu'un qui est diabétique, c'est super dangereux parce qu'il va pas boire, il va pas manger, il va pas prendre soin de son diabète. Quelqu'un qui a le cœur fragile, ben ça va être un arrêt cardiaque. Ça va être... Donc, tu sais, c'est.
Il y a plusieurs
ça,
dangers.
Puis souvent, puis ce qu'on remarque même, c'est que les gens, moi j'en ai vu, je pense à deux personnes récemment dans les dernières années qui étaient proches de moi, qui sont mortes en contexte de chemsex, puis on le nomme pas. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on entend après ça sur les réseaux sociaux, aux funérailles, c'est arrêt cardiaque, crise diabétique. Mais la réalité, c'est que la personne est morte en contexte de consommation, puis que c'est sa consommation aussi qui l'a tué.
C'est vrai que c'est pas nommé souvent.
J'aimerais revenir à la pièce de
oui,
théâtre.
Oui, pardon.
C'est parce que je trouve ça important. Non, c'est très intéressant comme témoignage, mais cette pièce de théâtre n'est pas un plaidoyer. C'est vraiment une œuvre artistique.
Non, c'est ça. Là, on part. Parce que c'est sûr que moi, j'ai développé une pratique de plaidoyer à côté, j'ai envie de dire, là, avec le temps. Mais effectivement, la pièce, au départ, sa particularité, puis la raison pour laquelle je suis vraiment content qu'elle soit montée, c'est que justement, je l'ai écrit en consommation. Je ne l'ai pas écrit en rétablissement. Je l'ai écrit pendant que je consommais. Donc, elle n'est pas là pour venir... Elle fait pas la morale, elle vient pas éduquer, c'est pas pédagogique. Puis même, je dis à des gens qui veulent arrêter de consommer, je leur dis, ben venez pas, ou si vous venez, venez accompagner parce que ça peut être, tu sais, je le dis, ça peut être trigger, là. Ça peut quand même remuer des choses. Mais je pense qu'elle permet par contre de comprendre les raisons pour lesquelles on consomme. C'est-à-dire que le personnage qui est, c'est un seul en scène, là, c'est un solo. Ouais. Fait que le personnage qui est là, tu sais, il cherche à... Il nous confie, en fait, ce qu'il vit, pourquoi il fait, qu'est-ce qu'il excite là-dedans, qu'est-ce qui lui fait du bien. Le personnage dans la pièce se remet d'un deuil amoureux, d'une peine d'amour. Donc, tu sais, on comprend aussi qu'il y a des raisons qui vont bien au-delà du simple plaisir de la sexualité puis de la consommation. Il y a des raisons plus profondes. Puis moi, j'espère que la pièce peut poser ces questions-là puis faire comprendre aussi, puis amener de l'empathie. Comprendre pourquoi les gens consomment, parce qu'il y a énormément de gens dans nos communautés qui le font, donc il y a des raisons.
Puis se cache, parce que s'il y avait un petit peu plus d'empathie dans notre monde, on aurait peut-être moins de problèmes à aider les gens qui ont besoin de s'en sortir. C'est souvent, finalement, ta pièce, c'est peut-être pas une pièce pédagogique, mais elle va peut-être aider à ce niveau-là.
Ben moi, je pense toujours que le théâtre, la fiction, puis de raconter une histoire, puis même si c'est un témoignage qui se veut pas éducatif, je pense que de raconter l'histoire de quelqu'un, puis de le faire humainement, avec sincérité, avec vérité, le théâtre est là pour ça. Mon but, c'est pas que la pièce porte un message, mais c'est qu'après ça, les gens voient ça, puis eux puissent repartir, puis en parler autour d'eux, puis faire leur propre réflexion par rapport à ça. Puis ça, c'est pas éducatif, mais en tout cas, j'espère que ça peut amener de la réflexion. Oui.
Cette fois-ci, tu ne joues pas toi.
Non.
Tu fais souvent au théâtre. Ah, c'est Gabriel Zabot qui va jouer ton rôle. Pourquoi?
Ouais. Ben, d'abord parce que c'est un super acteur. Que
oui,
j'ai
oui, si on
vraiment,
s'entend
c'est
là-dessus.
Un grand
oui.
acteur, vraiment, là, qui est connu beaucoup dans le milieu du théâtre, un peu moins ailleurs, mais c'est un grand acteur. Puis ben, moi, je l'avais lu, moi, je l'ai lu ou jamais lu, mais j'ai fait des lectures avec L'amour look something like you, des choses comme ça, mais j'ai pas la prétention d'être un acteur de formation. Je suis pas formé comme acteur. Je peux être en scène, mais je suis plus justement de l'ordre de la performance, puis tout ça. Puis là, ben, j'avais envie, moi, en tout cas, j'avais pas envie de le porter pendant 20 soirs, là, très franchement. Ouais. J'avais pas envie de replonger là-dedans. Puis j'avais envie que la pièce sorte de moi puis qu'on soit ailleurs que dans le témoignage. Non, c'est Philippe Cyr qui fait la mise en scène.
Ouais,
c'est Philippe
Cyr
qui est le directeur du Prospero.
Non,
qui fait la mise en scène. Donc, moi, je suis très un peu en retrait, en fait. Je suis là, j'ai assisté aux répétitions, mais je leur ai confié ça. Puis je trouve ça super, en fait, que la pièce vive par elle-même un petit peu. Là. Oui.
Bon, alors pour ceux qui veulent voir la pièce, présentement, c'est complet. Alors,
il y a, au Prospero, si on va sur le site web du Prospero, il y a une liste d'intérêts. Donc, s'il y a des supplémentaires, s'il y a une reprise, ça va, s'il y a des billets qui se libèrent, mettez-vous sur la liste d'intérêts. Comme ça, vous allez avoir les nouvelles en premier.
Éric Noël, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Félicitations.
Et je voudrais rappeler pour ceux qui ont besoin d'aide, il y a entre autres donc Réseau Santé en un seul mot, REZOCSANTE.org.